Première partie du chapitre 4, intitulée « Lorsque Jésus a été sur le point de revenir ». C'était pendant l'automne 1856, dans le paysage de l'histoire, le vent soufflait fort, un vent de tempête annonciateur d'un orage à venir. Dans la jeune Amérique, personne ne semblait faire preuve de maîtrise. Des sentiments de colère bouillonnaient dans tout le pays, accompagnés de menaces à peine voilées de guerre civile imminente, et de temps à autre ces prémices éclataient comme des éclairs de chaleur à l'horizon, zébrant prophétiquement le ciel d'endroits appelés Charleston ou Gettysburg. Ces lieux allaient bientôt devenir les autels sur lesquels les Américains allaient sacrifier 500 000 de leurs fils. L'économie également montrait des signes inquiétants. Dans quelques mois seulement, la fameuse panique de 1857 allait avoir lieu. Un écrivain nota « Au plus fort de sa prospérité et de son orgueil, la nation s'est un jour réveillée en constatant que toute cette gloire n'était qu'une illusion. Alors que la spéculation battait son plein et que tous les hommes étaient atteints d'une fièvre de gain immodérée, un krach financier sans précédent eut lieu. » Texte écrit par Warren A. Candler dans Les grands réveils américains et la Grande République. Cité dans l'ouvrage de Félix A. Lorenz, Le seul espoir, Nashville, South Pub Association, 1976, page 53. D'autres problèmes pointaient à l'horizon de l'histoire, certains à peine discernables. À cette époque, Charles Darwin mettait la dernière main à la publication de ses théories sur l'évolution. Les lecteurs américains du New York Tribune pouvaient régulièrement lire des articles écrits par un communiste du nom de Karl Marx. Et à New York, Richard Gatling travaillait d'arrache-pied à une invention que le diable lui-même aurait pu concevoir. Une arme à 6 canons rotatifs qui pouvait tirer aussi vite qu'on pouvait tourner la manivelle. C'était l'ancêtre de la mitrailleuse, la première de toute une série d'armes nouvelles qui allait permettre des massacres d'une efficacité redoutable. Dans les années suivantes, elle allait donner bien du travail aux fossoyeurs. Ainsi donc, l'automne 1856 fut une époque agitée, semée d'événements qui allaient avoir des conséquences lointaines dans l'avenir, comme si l'histoire se trouvait à l'aube d'une ère nouvelle. Et de fait, c'était bien le cas, chose qu'il était impossible même d'imaginer pour la plupart des gens. Pendant l'automne de cette année-là, un événement eut lieu qui fut à deux doigts d'ouvrir la porte à Jésus. Tout commença avec un éditorial de la Review and Herald le 9 octobre 1856. James White écrivit un bref article à la dernière page de la Review. Celui-ci surprit la plupart des lecteurs. Jusqu'alors, les adventistes sabbatistes s'étaient estimés satisfaits de se voir représentés dans le livre de l'Apocalypse par l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, 8, versets 8 à 11. Cette église de l'amour des frères à laquelle Dieu n'avait rien à reprocher. Mais White les secoua par toute une série de questions, leur suggérant que le message à l'église de Laodicée pouvait bien s'appliquer à eux. Accomplissait-il si bien que cela le travail confié par Dieu? Était-il vraiment bien représentatif de l'église de Philadelphie, comme la plupart d'entre eux le pensaient? Ou bien y avait-il cette terrible possibilité qu'ils appartiennent à l'église de Laodicée, prétentieuse, fière de ses œuvres, mais manquant d'une véritable piété? Ces questions étaient pour le moins révolutionnaires. Les racines de l'adventisme étaient encore peu assurées. 12 ans seulement s'étaient écoulés depuis l'automne 1844 et l'expérience en était encore brûlante dans les mémoires, au souvenir de ce moment formidable où des milliers de personnes pensaient que le retour de Jésus était imminent et qu'un véritable réveil balayait le pays. Au cours des 12 années qui venaient de s'écouler, ceux qui étaient restés fidèles à la suite de la grande déception avaient attentivement étudié la parole de Dieu. Ce faisant, ils avaient étudié minutieusement les plus grandes vérités bibliques, le sabbat, le jugement, le véritable état des morts, et même amorcé leur compréhension du message de santé. En même temps, ils avaient commencé à découvrir dans Hébreux l'importance du service du sanctuaire, grâce auquel certaines des questions jusque-là non résolues trouveraient une réponse. Pendant des siècles, les théologiens s'étaient bien, sans succès, attelés à répondre à une question sur la foi chrétienne. Comment concilier l'apparente contradiction entre l'assurance du salut et la possibilité de perdre ce même salut? Les esprits les plus brillants du monde chrétien avaient cherché à répondre, certains apportant des réponses aussi étranges que le purgatoire, la prédestination, ou même une fois sauvé, sauvé pour toujours. Aucune de ces réponses ne leur avait semblé sensée. Et là, au milieu des années 50, les adventistes mettaient la touche finale à une explication qui conciliait les deux points. On allait l'appeler le jugement investigatif. Et pour la première fois depuis des siècles, celui-ci donnerait au plan du salut un véritable statut légal. Voilà un sujet dont il y avait de quoi être fier, et ainsi que James allait le mettre en évidence, ce pouvait bien être qu'une partie du problème. Lorsque l'on considère l'adventisme du milieu des années 1850, plusieurs signes montrent que tout n'allait pas pour le mieux. Une douzaine d'années s'étaient écoulées au cours desquelles les fidèles avaient mis en évidence quelques-unes des plus profondes vérités sans réponse depuis des siècles. Cependant, de manière ironique, ils étaient plus éloignés du ciel qu'ils ne l'avaient été en 1844. Voici ce que écrit Ellen White dans Témoignage volume 1 à la page 128. « Je fus transporté vers les années 1843 et 44. Il régnait alors un climat de consécration réelle, ce qui n'est pas le cas en ce moment. » s'exclamait donc Ellen White en 1856. « Que se passe-t-il donc au sein du peuple qui se dit choisi de Dieu ?» Elle avait déjà déclaré des choses semblables auparavant. En 1852, elle regrettait qu'un grand nombre de ceux qui souhaitent le rapide retour de Jésus commencent à se conformer à ce monde. Et en 1854, elle reprit en disant que la stupidité comme la léthargie semble avoir saisi les esprits de la plupart de ceux qui déclarent détenir le dernier message. Cela fut écrit dans Review and Herald, 10 juin 1852, et dans Premiers écrits, page 119. Une mauvaise tendance se développait au sein du mouvement. Après 12 années de formidables découvertes, le peuple de Dieu ne progressait pas comme il aurait dû au niveau spirituel. Quelque chose allait mal. L'une des raisons en était que le conseil des éditeurs de la Review avait omis de faire référence à l'esprit de prophétie dans les pages de la Review, prétextant qu'ainsi le journal était plus acceptable en tant qu'outil d'évangélisation. La conséquence est que moins de gens entendaient la voix de la prophétesse et un moins grand nombre de visions furent données à Ellen White. En 1855, la conférence générale prit des mesures pour que soit rectifiée cette position et en 1856, James White semblait déterminé à affronter la crise de front. Voici ce qu'il écrit dans Review and Herald le 13 novembre 1856. En tant que peuple, nous professons notre croyance dans le retour imminent de Jésus. Et pourtant, des croyants s'empressent de vaquer à leurs affaires habituelles, dispersant leur énergie à la poursuite des affaires du monde, comme si en fait Jésus n'allait pas revenir, comme si la colère de Dieu n'allait pas s'abattre sur les errants, comme si le tribunal du jugement où chaque acte recevra sa récompense n'existait pas. Nous frissonnons, nous tremblons à la vue de la condition actuelle du peuple de Dieu. Il poursuit. Notre position sur la vérité biblique est clairement établie dans les Écritures et facilement défendable. La vérité présente est si bien en phase avec l'accomplissement actuel de la prophétie que les gens qui lisent et entendent notre position y voient et ressentent profondément la force de la vérité. Mais où est donc l'Église consacrée sur laquelle Dieu peut déverser l'Esprit Saint et qu'il peut transformer en un instrument brûlant du désir de délivrer la lumière au monde? Elle n'existe pas, elle est introuvable, dit-il avec tristesse. Il se plaint de voir, ouvrez les guillemets, les ouvriers de l'heure affairés à la lueur des lampes la nuit très tard, tirant des exemplaires de publications qui restent empilés dans l'atelier, fermez les guillemets, et qui ne sont que partiellement distribués. On voit que dans les années 1850, les fidèles tombaient dans un piège qui allait maintes fois se refermer sur eux durant les dizaines d'années à venir. Le peuple de Dieu, en pleine connaissance du message le plus puissant que l'on puisse imaginer, vivait comme si le retour du Christ n'était qu'une illusion. Ils échouaient dans la tâche assignée et n'annonçaient pas le message adventiste. Voici ce que James White écrivait le 16 octobre 1856. « Ô Laodicéen !» s'écria James White en montrant l'excellence de son don de prédicateur. « Notre bouche est grande, ouverte contre vous. Ne vous méprenez pas sur la véritable condition qui est la vôtre. » C'était une pilule dure à avaler, mais cela fonctionna. La ferveur de cet appel résonna quelque part au sein de cette jeune église. Les courriers affluèrent à Battle Creek, provenant de gens qui semblaient n'avoir attendu que ça. L'église était là, au bord du plus terrible événement de l'histoire humaine, professant détenir le message de l'heure du jugement et agissant pourtant comme si le jugement n'était pas imminent. Et soudain, la réalité se fit jour, comme lorsque le soleil se lève sur une scène et en révèle les dangers, et les gens commencèrent à se réveiller. Il n'y avait pas de quoi être fier, pas tant que les derniers messages destinés à la terre restaient empilés à Battle Creek sans être distribués par ceux qui prétendaient détenir le message de Dieu. L'adventisme n'était pas une vérité abstraite à déguster dans un salon, aux étagères remplies de livres, détachées du monde. L'adventisme, c'était le monde, c'était l'histoire et la prophétie ensemble mêlées, en un drame en train de se dérouler où il était question de vie et de mort et où le destin de nombreuses âmes dépendait des fidèles qui faisaient, ou non, le travail que Dieu leur avait imparti. La prophétie de la fin de l'histoire était en train de se réaliser et à ce moment, l'humanité, d'après les adventistes, allait se retrouver face à une grave crise. Dans peu de temps, il y aurait un temps de trouble tel qu'il est difficile d'imaginer. Le seul espoir pour en sortir était la venue de Jésus. Rien n'était plus important que de délivrer ce message. D'une certaine manière, les gens de 1856 le voyaient bien. Les lettres arrivaient par douzaines, vingtaines et milliers. De Lorraine, New York, un homme écrivit « Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour les frères qui ont travaillé avec lui et nous ont fait connaître notre tiédeur. » Ce fut écrit le 25 décembre 1856. Il écrivait qu'il avait été prompt à critiquer les autres et qu'il prenait le message à Laodicée pour lui-même. Un homme dans l'Ohio qui avait en public critiqué James White écrivit une lettre ouverte dans la Review and Herald. Il confessait, cela le 26 février 1857. « Je reconnais que l'orgueil et l'égoïsme ont entaché tout ce que j'ai fait. J'espère sincèrement que le frère me pardonnera. » Il ajouta un rapport intéressant décrivant le réveil qui avait fait suite au message sur Laodicée dans les églises du Middle West. Près de 350 lettres semblables affluèrent dans les bureaux de la Review à une époque où les fidèles n'étaient que 2000. Autrement dit, 20% des membres d'église réagirent et d'une seule voix, ils furent d'accord sur le fait que le temps était venu pour le réveil, en considérant que chacune de ces lettres représentait au moins un foyer. On peut en conclure qu'une grande partie de l'Église était prête à se lancer dans une nouvelle ère d'engagement. Un réveil tel qu'on n'en avait pas encore connu depuis 1844 submergea l'adventisme. On peut se l'imaginer en constatant que de nombreux pasteurs eux-mêmes se sentirent poussés à faire des confessions publiques sincères. M. E. Cornell, pasteur influent, écrivit « J'ai été amené à considérer avec grande humilité les torts que j'ai eus dans ma vie passée. Je n'ai pas été un bon exemple. Je demande le pardon et les prières de tous ceux auxquels j'ai causé du tort d'une façon ou d'une autre. Je veux faire désormais le travail qu'il faut et partir vers le ciel avec les fidèles du reste. Ce fut écrit le 5 février 1857. Un autre pasteur, A.S. Hutchins, dit « J'ai confessé et confesse encore humblement aujourd'hui mon énorme manque de patience et mon besoin de soumission. Ma prière est que le Seigneur ait pitié de moi et me pardonne. » Ce fut écrit le 9 avril 1857. Avec une puissance incroyable, le réveil balaya l'adventisme, se traduisant par des confessions publiques, le renoncement personnel et la réconciliation entre les fidèles. Peut-être peut-on résumer le mieux l'atmosphère de l'époque par cette citation de James White le 28 mai 1857. Voici ce qu'il dit. « L'Esprit du Seigneur descendit sur nous ce sabbat après-midi, et le Seigneur plaida avec son peuple, pour ainsi dire, face à face. » Puis, un autre événement eut lieu en dehors du monde adventiste, parmi les laïcs, montrant à quel point ce qui se passe au sein de l'Église peut affecter l'histoire plus que nous le pensons. En 1857, un réveil massif se manifesta dans l'Amérique tout entière avec une telle puissance que les éditeurs de journaux firent paraître des éditions spéciales pour en publier la progression. Les historiens sont bien en peine de l'expliquer. Il semblait n'être venu de nulle part, naissant spontanément chez les laïcs, par exemple, sur les places commerciales des districts de New York. Voici ce que Frank G. Baudelet, dans Religious Progress Through Religious Revival, page 176, cite dans Lorenz. Au cours du Grand Réveil de 1856, et 1857, la prédication semble avoir tenu une place tout à fait mineure, écrivit un historien. Il expliqua que ce réveil devait sa puissance au témoignage personnel d'hommes et de femmes dont les cœurs avaient été touchés par Dieu. Un jour, Ellen White écrivit une scène dans laquelle, entre guillemets, des serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une puissance, se hâtaient de place en place pour proclamer la vérité. Fermez les guillemets. Nous pouvons lire cela dans Le Grand Conflit, page 612. La page est indiquée dans la version anglaise. Apparemment, en 1857, le monde était pratiquement prêt pour un tel événement, car l'intérêt pour les choses de la religion naissait spontanément un peu partout. À New York, un homme d'affaires, Jérémy Lanfier, fut à l'origine de réunions de prière chaque jour au moment du déjeuner. L'idée se répandit rapidement à Philadelphie, Boston et d'autres villes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul endroit important aux USA sans ce genre de rencontre. Candler, page 192, dans Lorenz, à la page 24. Il s'agissait en fait d'un phénomène global qui toucha une grande partie du monde anglophone. On lui donna le nom de « le réveil » d'un million. Arthur Strickland, Le Grand Réveil américain, page 132-133. À une époque, ces faits éclipsèrent presque toutes les autres nouvelles. La politique, les faits divers, les crimes et autres centres d'intérêt du monde passaient bien après les informations sur ce réveil. Cela fut écrit par Bersley à la page 44-48 dans Lorenz. Opuscule cité, page 55. Les reporters suivaient les événements informés consciencieusement leurs journaux par télégraphe des récents faits accompagnant cette ferveur religieuse. Des journaux aussi connus que le New York Herald sortaient des éditions spéciales dans le simple but de tenir les gens au courant de sa progression. Une époque telle que celle-ci ne s'est pas vue depuis le temps des apôtres. Des réveils ont lieu dans le pays tout entier, balayant tout sur leur passage, comme au jour de la Pentecôte, faisant monter les larmes aux yeux de milliers de fervents s'inquiétant de ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Pas un village, pas une ville où l'on ne trouve cette puissance divine particulière. Écrit par Henry Fish dans Manuel sur les réveils à la page 770, cité aussi dans Lorenz, opus page 55. Il y a dans cette citation une compréhension formidable de ce qui se passait, d'une manière qu'il ne pouvait imaginer qu'en partie, le rédacteur avait écrit là quelque chose de tout à fait réel. Au-delà du voile qui séparait les choses visibles des choses invisibles, des agents puissants étaient à l'œuvre, se hâtant entre le ciel et la terre, allant de tout lieu pour préparer la voie au peuple de Dieu. Nous savons cela grâce à ce passage du volume 1 de Témoignages pour l'Église. Ellen White dit qu'en réponse au réveil de l'Église, le ciel tout entier se mit en action. Elle décrivit ce qu'elle avait vu, des anges allant dans toutes les directions, travaillant activement pour préparer les cœurs à entendre la vérité. C'est dans Témoignages, volume 1, page 186. Avant ce puissant déversement de grâce, des réunions de prière avaient été initiées dans des endroits inattendus. Des villes sans tendance religieuse particulière étaient touchées par le réveil. Des laïcs distribuaient des tracts, rendaient des témoignages personnels et tenaient des assemblées quotidiennes. Tout ceci se passait en dehors du monde adventiste, dans l'Amérique profane, dans les centres d'affaires de New York et les bureaux de Philadelphie, et dans les milliers de villes et de hameaux du pays tout entier. Cela survenait partout avec une telle intensité que les journaux en faisaient des articles passionnés. Tout ceci n'était pas accidentel. Le ciel mettait en place le décor de l'histoire pour l'accomplissement rapide du message du troisième ange. Et tout ceci était le résultat d'un réveil et d'une réforme au sein de l'Église. Puis, d'un seul coup, tragiquement, ce réveil tourna court. Malgré une période historique favorable, une économie en chute qui ouvrait l'esprit des gens à autre chose qu'une vie matérialiste, les anges se rendant partout pour préparer la voie, une nation au bord de la guerre civile générale, malgré toute chose prête, mis à part l'Église, le réveil adventiste s'étiola comme une fleur se fane. La mère ironie est que pendant un moment, les croyants s'étaient vraiment attendus à ce que leur éphémère changement d'état d'esprit hâterait le retour de Jésus. Presque tout le monde croyait que ce message se terminerait par le grand cri du troisième ange, écrivit Ellen White en 1959 dans Témoignages volume 1 à la page 186. Et pourtant, entre le rêve et la réalité, quelque chose fut raté. On était assez proche du retour de Jésus pour sentir sa présence, et malgré tout, l'occasion fila entre les doigts. Si proche, et pourtant si lointain. Devant eux, une porte était toute grande ouverte, et ils ne pouvaient la manquer. Un scénario de fin des temps classique se déroulait, et les anges préparaient le chemin. La victoire était à portée de main, précédée d'événements si forts que même les éditeurs profanes pouvaient s'en rendre compte. Et le peuple de Dieu faillit à sa tâche. À des années de cette époque, aujourd'hui, nous nous posons cette question. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Pourrions-nous commettre la même erreur ?